Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Alors le programme du jour, c'est toujours avec vous, Père Jacques-Philippe, et bonjour.
Bonjour.
Alors, 37 ans de sacerdoce pour vous, Père Jacques-Philippe, plus de 40 ans de vie en communauté. Quel est le secret pour rester fidèle à son sacerdoce et dans cette fidélité se donner dans son sacerdoce?
Enfin, moi, je pense que pour être fidèle, il y a, comme je l'ai déjà un petit peu évoqué, il y a une première fidélité qui est essentielle, c'est la fidélité à la prière. Fidélité à la prière, au sacrement, à rencontrer Dieu, à approfondir l'intimité avec le Seigneur, parce que c'est là que la grâce nous est donnée, que le Seigneur nous...
Est-ce qu'on peut dire que c'est là aussi où se joue un grand combat aujourd'hui dans le ministère du prêtre,
hein,
de la prière personnelle, de l'intimité avec le Seigneur?
Ben parfois oui, parce qu'on est dans un monde où on est souvent très pris par mille sollicitations, surtout des prêtres, et puis aussi on est tout le temps dérangé par le téléphone qui sonne, par la notification du dernier message qui est arrivé, donc ça demande un certain courage, une certaine discipline que d'être fidèle à des temps de prière silencieuse, d'intimité avec Dieu, donc je pense que c'est un premier point. Donc, puis une prière dans laquelle on se nourrit des sacrements, se nourrit de l'Eucharistie, prière d'adoration eucharistique en particulier, prière on se nourrit de la parole de Dieu, de l'Écriture, d'où tout cet aspect de l'Lectio Divina, donc c'est très important. Alors c'est un point, mais je pense qu'il y a aussi d'autres points qui sont nécessaires. Deuxième point, c'est je dirais ne pas être seul, hein, autrement dit... avoir un accompagnement spirituel, avoir des frères avec qui partager, avoir des personnes avec qui prier.
Donc l'accompagnement spirituel, c'est une condition importante aujourd'hui pour un frère prêtre,
hein. Moi, il me semble, oui.
Si le frère prêtre aujourd'hui n'a pas d'accompagnement spirituel, peut-il être en danger?
Il peut se mettre en danger, oui. Enfin, moi, je crois que c'est nécessaire et qu'il ait de temps en temps quelqu'un à qui il puisse parler, déposer ses fardeaux, parler de ses combats, de ses difficultés, une personne à qui il a confiance et à qui il se sent une certaine liberté de tout dire et puis qui se sent accueilli dans ce qu'il a à partager. Moi, ça me paraît nécessaire parce que... Donc, cette dimension d'accompagnement, puis aussi, je dirais, une autre dimension qui est nécessaire pour éviter d'être dans une solitude qui serait négative, c'est une dimension d'amitié. Enfin, moi, j'ai cette chance parce que je suis rentré, donc il y a nombreuses années, à la communauté des Béatitudes, donc il y a une vie communautaire. Donc, ça, je pense que c'est une grâce. À la fois, c'est un combat, c'est pas toujours facile, mais c'est aussi une grâce parce qu'on a quand même des personnes sur qui s'appuyer, avec qui prier, avec qui partager, des personnes aussi qui, de temps en temps, vous font leurs remarques que vous avez besoin d'entendre quand votre comportement n'est pas forcément...
Donc vous parlez de correction fraternelle
en
communauté.
Oui. Enfin, ça se fait un peu spontanément. On voit bien de toute façon...
Et fraternellement.
Oui, mais je dirais que tout simplement, indépendamment de quelque chose d'explicite, je dirais que quand on est en communauté, bien notre comportement automatiquement entraîne une certaine réaction des autres. On a des comportements qui sont bien accueillis, qui sont, qui rendent les frères heureux, qui donne de la chaleur humaine. On a parfois des comportements aussi dont on sent bien, qui ne sont pas bien accueillis, et à juste raison. Si je fais la tête pendant des heures, ou bien si je me défile des services, eh bien évidemment, ça ne sera pas très bien reçu par la communauté, et puis d'une certaine manière, elle me le fera sentir, et c'est bien.
Mais un sacerdoce à communauté est plus doux qu'un sacerdoce seul en paroisse, hein, si on devait faire des comparaisons presque de ministère dans cette vocation sacerdotale. Le danger est plus grand pour une plus grande solitude et dans les moments d'épreuve aussi.
C'est difficile de faire des comparaisons parce qu'il y a aussi des appels qui sont différents. Bon.
Et des grâces différentes
mais
pour chaque appel.
Mais en même temps, je crois que ce qui est certain, c'est que la solitude n'est pas bonne. Enfin, il peut y avoir des solitudes bonnes, de silence, d'intimité personnelle, du temps pour soi. Bon. Mais je dirais quelqu'un qui est trop seul, qui n'a pas d'amitié, qui ne partage pas, qui n'a pas d'accompagnement, qui n'a pas des moments pour célébrer avec d'autres, pour se réjouir avec d'autres, eh bien, c'est pas ce qui permet à une personne humaine et à un prêtre en particulier.
Voilà, alors nous pensons peut-être à tous ces frères prêtres, Père Jacques-Philippe, qui sont dans un ministère en paroisse, mais peut-être un peu trop seuls, sont des prêtres à risque, en danger.
Oui, mais ça dépend. C'est-à-dire que moi, je connais des prêtres qui sont paroisses, qui vivent une certaine solitude, et ça se passe bien, parce qu'en même temps, ils ont quand même des relations avec d'autres personnes, ils sont accompagnés, ils ont des moments de...
Donc, il y a des amitiés,
oui,
hein,
oui,
voilà,
oui,
qui entourent le prêtre.
C'est ça. Et on voit bien que, quand on étudie un peu le profil psychologique des personnes qui ont commis beaucoup d'abus sexuels, que la plupart des temps, c'était des gens qui n'avaient pas d'amitié, en fait. Qui n'avaient pas de vrais amis, de véritable amitié. Donc il y avait des carences au niveau de l'amitié et qui entraînaient des compensations dans d'autres domaines.
Alors aujourd'hui, vous parlez de psychologie, on ne va pas tout détailler, mais aujourd'hui, pour discerner des vocations, pour discerner aussi des entrées de vocation dans des séminaires pour devenir prêtre, il y a quand même cet aspect de la psychologie et de l'étude du profil du candidat.
Ah ben ouais. C'est absolument essentiel, bien sûr. Il faut vérifier que la personne a des capacités de relations humaines, qu'elle peut s'insérer de manière saine dans un groupe, qu'elle est capable de relations équilibrées, à la fois de véritables amitiés, d'affection, mais en même temps sans tomber dans l'emprise, dans la manipulation. C'est sûr que le profil humain de la personne appelée au sacerdoce, c'est très important de l'examiner. Puis donc aujourd'hui, en particulier à cause des difficultés qu'on a pu connaître dans les séminaires et dans les lieux de formation, on est beaucoup plus attentif, je dirais, au profil humain de la personne. On ne peut pas mettre la grâce de l'ordination comme ça sur un terreau humain qui n'est pas équilibré. Alors je ne dis pas qu'il faut que les gens soient parfaitement équilibrés et parfaitement sains, parce qu'on est tous des gens un peu fragiles et pécheurs, on a tous nos limites psychologiques, mais il faut quand même un certain minimum de liberté, de capacité de relation, d'être quand même bien en soi-même, d'avoir une identité qui a une certaine consistance. Vous voyez, qu'on ne soit pas tout le temps en quête d'approbation ou quête d'identité auprès des autres. Donc il y a quand même un terrain humain et psychologique dont il faut tenir compte, ça c'est clair.
Père Jacques-Philippe, pour le candidat aujourd'hui qui a ce manque, je dirais, d'une absence d'un père dans son parcours, est-ce que ça peut freiner aussi le parcours de ce futur candidat en vue du sacerdoce, hein, puisqu'on on touche à l'image aussi de l'image du père, de Dieu, et l'image future aussi de ce prêtre qui deviendra à son tour père aussi pour les autres.
Oui. Ben, c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas dans sa vie, dans son histoire, une expérience positive d'une vraie paternité qui a pu l'aider à l'encourager, ça sera peut-être plus difficile pour lui.
Est-ce que ça peut être un frein pour le futur candidat ?
Ça peut être un frein, mais là encore, ça dépend comment les choses sont vécues et gérées, parce qu'il existe des cas de personnes et puis... qui sont devenus des saints prêtres, des personnes qui, par exemple, au niveau humain, n'ont pas eu le contexte familial, n'ont pas eu la présence d'un père qui leur a donné tout ce qu'un père peut donner à son enfant, mais qui, malgré ça, ont pu quand même vivre des expériences positives de paternité dans leur relation à Dieu, hein, et puis aussi rencontrer un accompagnateur, un ami, ou un prêtre, ou un éducateur qui a joué quand même un rôle positif, où la personne s'est sentie accueillie, sentie aimée telle qu'elle était, s'est sentie un peu respectée dans son identité, s'est sentie encouragée dans sa vocation. Donc, la figure du père, évidemment, peut manquer, ça peut fragiliser, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours une catastrophe absolue, hein, parce qu'il peut y avoir un travail de l'Esprit Saint, il peut y avoir aussi des réseaux de relations, des rencontres qui se sont constituées, qui permettent à la personne de... quand même, d'une part, d'expérimenter qu'est-ce que c'est qu'être aimé, qu'être encouragé, qu'est-ce que c'est qu'une paternité positive, et puis donc de pouvoir aussi, à son tour, exercer ce type de paternité. Puis moi, je crois qu'il faut aussi avoir confiance. Enfin, c'est une question un peu délicate, parce qu'il faut à la fois être attentif au terrain humain, mais en même temps, je dirais, il ne faut pas non plus désespérer de la grâce de Dieu. Alors, je ne dis pas qu'il... Alors, parfois, des fois, c'est trop compté sur la grâce. C'est ce qu'on a fait parfois. Voilà, on prend une personne trop fragile au niveau humain, trop compliquée, puis on lui donne la grâce, et puis la grâce va tout résoudre, et ça ne marche pas. Mais en même temps, je dirais donc qu'il faut être très attentif au côté humain, mais en même temps, il faut quand même avoir cette espérance que si la personne a une bonne volonté, si elle prend les moyens d'une vie profonde avec Dieu, d'une vie de relation, d'un accompagnement, eh bien, elle peut quand même franchir des étapes qui la rendent plus libre et plus adulte pour devenir père à son tour.
Donc d'où l'importance, et vous soulevez encore une fois, d'où l'importance quand même de l'accompagnement, et d'un bon accompagnement.
Oui, l'accompagnement,
alors là aussi, il y a parfois des carences dans la formation, mais des carences aussi, et des manques aussi d'accompagnateurs spirituels,
oui,
Père
oui,
Jacques-Philippe. Je suis désolée de relever des points un peu sombres au tableau, mais il y a cette carence qui est bien réelle aujourd'hui.
Oui, mais je dirais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui... De prêtres, moi, parmi la plupart des prêtres que je connais, c'est des gens qui... Enfin, beaucoup de ceux que je connais ont un accompagnement. Et puis, ils sentent bien que c'est important. Et puis, c'est pas non plus un domaine de désastre absolu. Alors, moi, j'accompagne plusieurs prêtres. Je suis moi-même accompagné par un prêtre. Donc,
Vous nous rassurez.
Comment ?
Vous nous rassurez.
Oui, non, mais ça fait quand même partie d'une vie normale de l'Église. Alors, je dis pas que tout est parfait. Et effectivement, c'est un peu dommage que certains prêtres soient pas accompagnés du tout. Et ça existe, hein. Ou des prêtres qui se confessent extrêmement rarement. Ça m'est arrivé il y a quelques années de confesser un prêtre qui ne s'était pas confessé depuis 30 ans. Bon, alors c'est sûr que ce n'est pas tout à fait le genre de chose normale, mais je dirais que il peut y avoir aussi des conversions, il peut y avoir des progrès, il peut y avoir des changements dans la vie de personnes dont la vie n'a pas été idéale. Dieu nous attend parfois au détour du chemin pour justement nous faire franchir des
étapes. Alors, au fond, quels seraient presque les candidats avec le bon profil pour se présenter aujourd'hui dans un séminaire en vue de devenir prêtre, hein, Père Jacques-Philippe ?
Je dirais que c'est d'abord quelqu'un qui doit avoir une grande soif de Dieu, vous voyez, un désir de Dieu, une soif de prière. Bon, deuxièmement, ça doit être quelqu'un qui a vraiment envie de donner sa vie. Autrement dit, si je me fais prêtre, c'est pas pour être un notable, c'est pas pour que je sois au centre de l'attention, c'est pas pour qu'on admire mes prédications, mais si je me fais prêtre, c'est pour me mettre au service. C'est pour laver les pieds de ceux qui me sont confiés. Oui, donc vie de prière profonde, un désir très clair de se donner, de servir, non pas de se servir soi-même, mais de se mettre au service des autres. Et puis troisièmement, de prendre quand même les moyens d'une maturation humaine qui fait que la grâce va tomber sur un terrain où elle pourra porter tous ses fruits. Autrement dit, donc une certaine maturité humaine, et puis après ça, prendre les moyens que cette maturité humaine s'approfondisse et un chemin à la fois de sanctification personnelle et de croissance humaine, et d'en prendre les moyens qui existent. À la fois les moyens spirituels, des sacrements, mais aussi les moyens humains de l'accompagnement, d'une certaine vie communautaire, de relations saines avec d'autres personnes.
Alors, vous, quand vous parlez de relations, vous précisez bien souvent relations saines. Donc, éviter, donc apprendre à discerner les relations qui pourraient être toxiques.
Ah, il peut y en avoir, évidemment.
Ça peut arriver.
Ça peut arriver.
Ça peut devenir dangereux pour le frère prêtre.
Oui, bien sûr. Ouais. Puis pas que les prêtres. Les relations toxiques, ça existe aussi en famille, ça existe partout, au travail.
Je voudrais bien évoquer aussi demain, si vous le voulez bien, à cette même place, puisque nous enregistrons ici, très précisément dans ce sanctuaire de Lourdes où se tenait l'Immaculée Conception, la place de Marie aussi dans la vie et dans le sacerdoce du prêtre et la joie du sacerdoce. Je vous donne rendez-vous demain, Père.